à voix nue. Cette semaine, Marie-Laure Delorme rencontre François Sureau. Ce soir, la couleur de l'enfance.
Bonjour François Sureau.
Bonjour Marie-Laure Delorme.
Vous êtes avocat au conseil, romancier, essayiste. On vous dit proche d'Emmanuel Macron et de François Fillon. Vous êtes engagé en faveur des libertés publiques et auteur notamment de « Sur la liberté » et du « Chemin des morts ». On connaît vos prises de position, mais vous, on vous connaît un peu moins.
Tant mieux.
Avant de parler de votre enfance, dans cette première partie d'À voix nue, j'aimerais vous poser une question sur la parole, puisqu'on va vous écouter tout au long de la semaine. Vous êtes avocat, je l'ai dit. Vous maîtrisez bien la parole, peut-être même un peu trop bien. Est-ce qu'il y a des situations dans votre vie où les mots en sont venus à vous manquer? Est-ce qu'il y a des situations où vous êtes devenu sans voix?
Je vais révéler un secret de fabrication qui est que avant que cet enregistrement ne commence, nous avons pris un café tous les deux. Et vous m'avez fait part de votre réserve à l'égard des avocats qui, professionnellement, en effet, étaient capables à peu près d'entuber n'importe qui, et ça m'a fait plutôt sourire. Il y a plusieurs choses. D'abord, je ne me souviens pas de cas où les mots m'aient manqué. Et je vais vous dire, ça n'est pas à mon honneur, c'est pas non plus à l'honneur des institutions, c'est-à-dire que assez vite, je me suis rendu compte que, au fond, pour que les mots vous manquent, il faut vraiment être convaincu de l'importance de votre propre parole, et de la capacité des autres à l'écouter. Pour un avocat, être convaincu de l'importance de ce qu'il a à dire, et aussi être convaincu du fait que ce qu'il va dire peut déterminer un mouvement chez les juges. Assez vite, vous vous rendez compte qu'il n'en est rien dans la plupart des cas, c'est-à-dire que le monde n'est pas si sérieux. Globalement, vous faites une erreur de raisonnement, vous tapez un peu à côté, ça n'aura pas nécessairement plus d'influence sur les juges, par exemple, que si vous dites des choses puissantes et exactes. L'alchimie qui conduit un avocat à être ou non efficace me reste encore mystérieuse. Je crois qu'en fait, elle reste mystérieuse pour la plupart de mes confrères. L'une des raisons pour lesquelles les avocats sont souvent extrêmement... vaniteux, je ne m'en exempte pas.
C'est vrai, ils sont souvent vaniteux, les avocats, c'est juste.
Extrêmement narcissique, vient de cette inquiétude qui tient au fait qu'ils ne savent absolument jamais quand leur parole va porter ou pas. Dès lors qu'ils ne savent jamais comment leur parole va porter, ni pourquoi elle porte, au fond, ils ne sont pas tentés de garder le silence. Un homme qui garde le silence est un homme qui est convaincu que ce qu'il a à dire... peut avoir un effet absolument immédiat et se montre prudent. Rien dans le fonctionnement des institutions ne permet de le penser.
Alors nous, on va vous écouter avec attention. Est-ce que vous vous avancez masqué dans la vie, François Sureau ?
Je ne crois pas que j'avance masqué. En revanche, je suis pour moi-même très certainement une énigme. D'abord, le sont la plupart des gens qui ne passent pas nécessairement leur temps à s'observer pour savoir les raisons qui les font aller de droite ou de gauche. Donc, je suis certainement une énigme, mais comme nous le sommes tous. En revanche, si j'ai bien un défaut, c'est probablement pas d'avancer masqué, mais plutôt de dire trop souvent ce qui me passe par la tête. Et au contraire, de révéler, presque malgré moi, souvent les facettes contradictoires de ma personnalité. Par ailleurs, il y a une phrase de Kundera, propos de Kundera qui m'a été rapporté, d'ailleurs que j'ai pas entendu, qui m'a été rapporté par une amie, Teresa Crémisi, mais il me racontait que Kundera lui avait dit que la vie, depuis qu'on a 20 ans ou 18 ans, on a un personnage conscient, la vie ressemble, vous savez, à cette espèce de crayonnage d'artiste où à la fin, au milieu, une figure se dessine, mais elle se dessine au bénéfice d'une sorte de masse de gribouillis, comme ça. Le crayon va de droite et de gauche, de droite et de gauche, de droite et de gauche, et puis à la fin, on voit que ça dessine quelque chose. Mais il y a quand même des tas de traits qui partent de droite et de gauche et qui, eux, n'étaient nullement nécessaires. Voilà. J'ai l'impression que ma vie est pleine, comme la vie de tout le monde, d'ailleurs, de traits de droite et de gauche qui n'étaient nullement nécessaires. Mais j'essaye pas de les effacer ensuite.
Dans cette première partie d'À voix nue, on va parler de votre enfance. On est là dans votre bureau de votre cabinet d'avocat. En jetant un rapide coup d'œil, je vois beaucoup de livres, mais je vois pas comme ça, il y en a peut-être de photos de famille. Donc ma première question, c'est de quelle famille venez-vous ?
Alors, d'abord, peut-être un mot sur le... C'est vrai que c'est un bureau assez étrange parce que...
Atypique.
Je ne sais pas s'il est atypique, mais en tout cas, j'y vis environné de fétiches. Donc ça, c'est un... Et d'abord, le fétiche principal étant un fétiche que je décris pour les gens qui nous écoutent et qui ne peuvent pas le voir, qui est le célèbre fétiche Arumbaya de Tintin. Fétiche qui les résume tous. Donc c'est un bureau qui est environné de fétiches. Je me sens bien environné de sorte de petits dieux protecteurs. Par exemple, là, sur mon bureau, il y a quelque chose que j'ai sans arrêt devant les yeux quand je travaille, qui est un dessin de Hansi. Et c'est un dessin de Hansi qui représente l'ermitage de Saint-Florentin, dans la légende de Saint-Florentin d'Alsace. C'est un ermite qui est dans sa forêt, comme moi dans mon bureau, si je puis dire, et qui est environné d'animaux sauvages, dans un paysage de neige, et il leur donne à manger. Et je ne sais pas si vous savez que Walt Disney, quand il est venu en France, en 1919, il a été démobilisé, il était dans l'armée américaine, a rencontré à cette occasion-là les dessins de Hansi, et que ce dessin est l'un des inspirateurs, l'un des dessins qui ont servi pour les premières représentations de toutes sortes de cabanes dans les bois, Bambi, Merlin l'Enchanteur, qui viennent directement de Hansi. C'est quelque chose que je trouve très, très apaisant. Et puis par ailleurs, il y a sur les murs des choses qui ne viennent pas a priori de mon passé familial ou généalogique, mais de mon passé mental. La dernière photo de Rimbaud qui a été retrouvée il y a quelques années et dont l'examen montre que, en fait, il trafiquait effectivement des armes du côté d'Aden, ou l'intérieur de la dernière maison qu'est occupée Laurence d'Arabie, ou l'affiche proclamant sur les murs de Paris l'exécution d'Honoré d'Estienne-d'Orve, qui sont des choses à quoi je tiens beaucoup. Et puis derrière vous, il y a ce qu'on appelle le Momo. Le Momo est un personnage mythique, donc il existe 3 ou 4 exemplaires, qui est une statuette représentant un légionnaire, une statuette en terre cuite représentant un légionnaire assis, en train de vous contempler avec l'œil mélancolique et existentiel propre à cette catégorie de soldats. Donc en fait, d'abord le passé qui m'environne est mon passé, c'est-à-dire le passé que chacun se donne à lui-même, non pas nécessairement celui qui l'hérite. Et ça, c'est la première chose.
Quant à la famille, le passé dont vous avez hérité.
Le passé dont j'ai hérité, lui, c'est un passé, j'imagine, qui correspond à celui de nombreuses familles françaises dans mon genre, quoi. C'est-à-dire que, d'abord, je sais à peu près d'où je viens pour une assez longue période de temps. Je porte le nom de mon, je sais pas comment on dit, quadrisaïeul, qui s'appelait François, et qui en 1680 était juge sénéchal à Lussac-les-Châteaux, dans le Poitou. Donc c'est une famille de l'Ouest, et qui fait partie de cette masse assez considérable de familles qui, avant la Révolution française, étaient quelque part entre la bourgeoisie et la petite noblesse, et qui occupaient des fonctions assez médiocres dans la vie locale, et puis ensuite ils sont devenus militaires. Mon arrière-grand-père, quand il a pris sa retraite de militaire, a eu un coup de génie qui m'a toujours amusé. Je ne pense pas que ça ait justifié le goût que j'ai eu ensuite pour les voitures, mais il est l'inventeur du panneau de signalisation. C'est-à-dire qu'il lisait le code de la route et il s'est dit, mais enfin, c'est quand même assez étonnant, c'est pas juste le tout de lire le code de la route, il faut bien que les gens sachent comment tourner à droite et tourner à gauche. Et donc il avait pris sa retraite près de Nice, à Cimiez, il est descendu, il est allé voir le quincailler du coin, qui s'appelait Coradis, je crois, et il lui a dit on pourrait peut-être s'associer, fabriquer ensemble des panneaux de signalisation, et ils ont créé une boîte qui a été pendant très longtemps, qui a eu le monopole des panneaux de signalisation dans la France et dans l'Empire français, ça m'amusait beaucoup. Voilà. Et puis après, ils sont devenus professeurs de médecine. Mon grand-père était un personnage tout à fait étonnant, qui était un combattant héroïque de la Première Guerre mondiale, et qui s'est également très très bien comporté pendant la Seconde, et qui est mort très jeune. C'était un personnage absolument atrabilaire, qui a été l'un des inventeurs de la transfusion sanguine, et qui avait, j'ai rêvé d'écrire son histoire avant, puisqu'il avait 2 témoins de mariage. Ils étaient amis à Nice avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale. Et il a eu 2 témoins de mariage. L'un était Bichelonne, qui était le secrétaire d'État à la production industrielle de Laval, celui qui a signé les accords de STO et qui est mort à Sigmaringen, Céline le raconte dans D'un château l'autre. Et l'autre était René Cassin. Et ils étaient les 3 meilleurs amis du monde. Et la guerre leur a fait prendre des chemins tout à fait différents. Et puis, mon père, qui est certainement... au fond, un peu étrange de dire ça, l'homme que j'ai le plus aimé au monde et était un professeur de médecine aussi, fils de son père et un personnage. Quand je dis fils de son père, je veux dire fils de grand patron, quoi, comme dans ces univers assez héréditaires. Mais.
Une famille d'hommes, les femmes comptent.
Non, j'allais parler des femmes. Alors les femmes comptent, ça c'était la lignée paternelle. Et la lignée maternelle est tout à fait étonnante parce que d'abord cette lignée comporte deux parties. Il y a une partie qui est une partie protestante qui a quitté la France à la révocation de l'édit et qui n'est revenue en France qu'au tournant du siècle. Il s'était établi en Prusse, en Suisse, un peu partout, au Canada et même dans l'Utah. Je crois que je dois avoir des cousins mormons là-bas. Et il y a cette partie-là, et l'autre partie est une famille tout à fait étonnante de gens exceptionnellement intelligents, qui, eux, vivaient à Paris continuellement depuis le 15e ou le 16e siècle, et qui a donné deux représentants que j'ai beaucoup aimés, l'un qui est mort et l'autre qui est vivante. L'un qui était Gérard Lebrun, le philosophe, l'auteur de Patience du concept, qui est un personnage absolument de premier ordre. Dans cette branche de la famille, il y avait une religieuse dominicaine, que j'appelais Tante Babet, et qui a été la première femme agrégée de physique, qui ensuite est devenue dominicaine des prisons. Une dominicaine qui conduisait, avant de devenir dominicaine, des voitures de sport et fumait des gauloises sans filtre, c'était une autre époque. Et puis une actrice dont j'étais, bien qu'elle fût ma tante, amoureux quand j'étais jeune, comme beaucoup de Français de ma génération, vu qu'elle jouait le rôle de la baronne de Saint-Gély dans Vidocq, qui s'appelle Daniel Lebrun, qui est une sociétaire de la Comédie française. Voilà, ça c'est la famille dont je suis issu, qui est une famille quand même assez, intellectuelle globalement, sans jamais s'être... c'est une famille qui, au fond, présente la caractéristique de n'avoir jamais été mêlée au milieu du pouvoir, d'avoir choisi toujours des activités de service, service militaire, de service hospitalier, ou des activités intellectuelles, mais de ne jamais avoir dirigé quoi que ce soit. Par exemple, quand je parlais de cette usine de panneaux, en fait, après l'avoir fondée, mon arrière-grand-père en a filé la direction à quelqu'un d'autre et ce n'est jamais nous qui l'avons dirigé.
Votre père, dont vous avez dit que c'était l'homme que vous avez le plus aimé au monde, vous a-t-il transmis des valeurs, une manière d'être au monde, une ligne directrice ?
D'abord, je pense qu'il... C'est très difficile. D'abord, le premier élément, c'est que bien sûr, il parlait.
Mais c'était un taiseux.
Non, mais en tout cas, il ne faisait jamais la morale. C'est un homme que je n'ai jamais entendu faire la morale. Donc, il ne disait jamais, il faut faire ceci et pas cela. Il donnait lui-même l'exemple d'une extraordinaire application au travail. C'est un homme qui travaillait absolument tout le temps. C'est un homme qui était... C'est un univers, vous savez, que j'ai profondément aimé, l'univers hospitalier public. Maintenant, quand je vois ce qu'il devient, ça cause en moi une très très grande tristesse.
Vous auriez pu vous-même être médecin ?
J'aurais pu, j'avais pas la patience, j'avais pas le dévouement, j'avais pas, je connaissais trop mes défauts. J'y ai pensé, hein, mais j'avais pas ce qu'il fallait pour ça. Et j'ai le souvenir, mais vraiment un souvenir vif de cette génération hospitalo-universitaire qui a profondément transformé la médecine française entre 1945 et 1975, qui a fait de la médecine française l'une des premières du monde, avec un dévouement absolument incroyable. Et puis des tics qu'ils avaient, de leur manière d'être. Enfin, bon, il y a un côté un peu caricatural, vous voyez, Pierre Fresnay dans Un grand patron, mais des choses assez de l'espèce d'union presque médiévale et sans égard aux classes sociales, alors que c'était des univers très hiérarchisés et très normés, au fond, hein, qu'il y avait entre eux, les internes, les chefs de clinique, les infirmiers, les infirmières, etc. Cette manière qu'ils avaient de parler les uns aux autres, ça m'émouvait toujours quand mon père a présidé l'Académie de médecine, et de temps en temps, j'allais le voir pour déjeuner, et puis c'était un vieux monsieur respectable, et puis il y avait d'autres vieux messieurs plus vieux que lui, et mon père s'adressait, comme lorsqu'il était interne, à celui qui avait été son chef de clinique en l'appelant monsieur, simplement monsieur, parce que c'est comme ça qu'on faisait dans l'univers hospitalier public, vous voyez, et dans ce monsieur passait tout le respect du monde, tout le dévouement aux malades, le souvenir des nuits sans sommeil, des choses absolument extraordinaires. J'ai vu ça, vous voyez ce que je veux dire ? J'ai vu ça comme enfant, j'ai vu la manière dont les patients, ou les infirmiers, considéraient mon père quand j'allais le voir pour déjeuner avec lui dans son hôpital. Et ça a été pour moi la première impression de ce qu'est une belle destinée d'homme. Mais lui-même... n'en disait rien. Voilà, il n'en disait rien.
Et qu'est-ce qui a compté durant cette enfance? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que vous avez eu une enfance catholique?
J'ai eu une... Oui, alors, c'est très curieux parce que, par exemple, c'est une chose qui était très présente dans la vie de mon père, qui était présente de manière absolument paradoxale. Par exemple, nous n'allions pas à la messe en famille. Il y allait seul. Il y allait seul, absolument seul. Et il ne disait pas ce qu'il y faisait. Pendant très longtemps, je me suis demandé à quoi correspondait ce rite étrange. Ça n'est que des années plus tard, je devais avoir 35, 40 ans, où pour la première fois, nous avons parlé de cette chose mystérieuse. Et cet homme, qui était quand même avant tout un scientifique, qui travaillait énormément, qui était un esprit extrêmement positif, m'a simplement dit une phrase sur le fait que le Christ de l'Évangile n'avait pas de principe. Mais qui s'attachait simplement à la rencontre individuelle avec les gens qu'il rencontrait. Et j'ai compris à ce moment-là que, au fond, la médecine avait été pour lui une manière de mettre en œuvre ce qu'il avait entendu. Et c'est à quoi il tenait le plus. Une personne après l'autre, un malade après l'autre. Ne jamais leur faire la morale et jamais de question de principe. Ça l'a mis quelquefois, d'ailleurs, lui-même en grande difficulté avec... sa religion, puisque c'était un catholique revendiqué comme tel, qui par exemple a soutenu Simone Veil au moment de l'interruption volontaire de grossesse, a soutenu Beaulieu au moment de l'invention de la pilule, et ne cessait de les soutenir tout en se réclamant de la religion qu'il avait héritée de ses pères, c'est-à-dire du catholicisme. Et donc, sous ce rapport, j'ai pas eu une enfance catholique au sens où, vous voyez, papa, maman, les enfants vont à la messe, mais j'ai eu une enfance catholique au sens où la personne qui m'impressionnait, je me suis rendu compte progressivement au fil du temps qu'elle mettait en œuvre quelque chose qui me paraissait extrêmement mystérieux et plus tard désirable, et d'autant plus désirable d'ailleurs que je n'étais pas a priori invité à y participer. En tout cas, pas invité de manière obligatoire. Et puis, j'ai eu une autre partie d'enfance catholique qui est, elle est catholique pour moi, pour d'autres, elle pourrait avoir trait à d'autres choses. C'est le souvenir très vif que j'ai gardé de ma première communion. J'ai fait ma première communion en 68. Alors, en 68, c'était absolument étonnant parce que on habitait une grande maison à la campagne, avec un grand domaine. Mon grand-père, qui était un type étrange, avait accumulé sur ce domaine toutes sortes de gens qu'il avait connus au fil de sa vie. Un vieux colonel de Cosaques qui s'appelait Grigoriev, qu'il avait rencontré mendiant gare du Nord et qui lui servait de secrétaire. Son aide de camp du 27e bataillon de chasseurs alpins pour la Première Guerre mondiale, enfin son assistant militaire, qui était un breton, qui s'appelait René Le Floch, de Plougastel d'Aoulas, qui parlait médiocrement le français. Et puis des tas d'autres gens qui étaient là sur cette espèce de domaine assez immense et puis qui, en 68, se sont mis à mettre le domaine en état de défense, parce que le Grigoriev voulait pas voir revenir les Rouges, et le Floch, c'était un breton de l'Ouest, et donc il aimait pas les Rouges non plus. Et donc ils se sont mis à mettre des sacs de sable partout. Dans mon souvenir, ils sont pratiquement allés, hijacker la pompe à essence la plus proche pour foutre l'essence dans une tonne, histoire d'avoir de l'essence pour survivre jusqu'à l'arrivée de la cavalerie, si je puis dire. Puis tout ça s'est arrêté simplement au moment où le curé est venu expliquer, parce que le curé est un type un curé rural de l'ancien temps, qui était un type très intelligent, qui est venu collectivement rassembler tout le monde pour expliquer que, vous savez, il n'y aurait pas de révolution, vu que les communistes, en fait, étaient totalement conservateurs en France. Donc ça, c'était l'atmosphère étrange de
votre première communion ?
De mai 68, oui. Moi, j'étais là-bas et je faisais ma retraite de première communion et ma première communion à côté, à Saint-Rémy-les-Chevreuses, petit village à côté de chez nous. Totalement à l'écart de ça, je n'ai découvert ce dont je viens de vous parler que des années plus tard. Et donc, je faisais ma première communion là et j'ai connu là une espèce d'éblouissement. J'ai eu l'impression, je crois que c'est la seule fois où j'ai eu l'impression de véritablement coïncider avec le monde sans qu'il y ait de voile posé entre le monde et moi. Et cette impression de coïncidence et d'éblouissement dure encore. Et d'une certaine manière, j'ai été frappé.
Parleriez d'avant-après, c'est à ce point-là ?
Je ne sais pas si c'est un avant et un après, c'est-à-dire que je ne me souviens plus très bien de ce qu'il y avait avant, sauf de 2-3 épisodes de mon enfance, mais je me souviens que j'ai eu l'intuition à ce moment-là d'une espèce d'au-delà du monde qu'il n'incombait à nous que de retrouver, sur lequel il me fallait travailler pour y revenir, en quelque sorte. Une impression qui, à l'époque, était une impression d'immédiateté et qui ensuite est devenue une impression de paradis perdu. Et qui ensuite a été effacée par la masse des fautes que j'ai commises, comme nous commettons tous dans notre existence, par l'incapacité, par l'orgueil, par toutes sortes de choses, mais qui à ce moment-là, un court instant, pendant près d'une semaine, n'existait absolument plus. Voilà.
On peut nouer morale et liberté.
Je pense qu'on peut le nouer à condition de ne pas avoir de la morale, l'idée de quelque chose qui serait imposé de l'extérieur. Mais c'est vrai que je ne pense pas qu'il y ait d'autres libertés profondément que la liberté d'essayer de coïncider avec soi-même dans le bien. Parce que je pense que c'est la seule chose qui vous rend l'esprit léger. D'une certaine manière, quand je parle de la première communion, l'esprit d'incroyable légèreté qu'on éprouve dans ces moments, qu'on peut éprouver ensuite dans la vie littéraire, artistique, spirituelle, après la première communion, vient de cette idée de cette coïncidence d'une liberté totale avec le bien. Alors que l'un des inconvénients de la liberté, c'est qu'elle peut aussi bien vous disposer au mal, naturellement.
Est-ce que vous avez voulu trouver un sens à votre vie tôt ? Est-ce que justement, c'est ça, cette première communion, ce moment-là ?
J'ai jamais voulu trouver un sens à ma vie. Je ne la vois pas, bien que nous ayons inventé le panneau de signalisation, je ne la vois pas comme une sorte de rue, d'avenue. J'ai voulu lui donner une couleur, une belle couleur, une couleur la plus vive possible. Et en fait, je crois que c'est ça que j'ai voulu. J'ai toujours eu l'idée, naïve et enfantine, j'ai toujours eu, qu'un jour nous serions jugés. Je trouve que rien n'est plus horrible qu'un monde où l'on n'est ni connu ni jugé. Et j'ai pensé que, au fond, je serais jugé sur la couleur. Alors, évidemment, avec les années, on est obligé de décaper. Parce que, je veux dire, on commence par des couleurs vives, et puis ensuite, les erreurs qu'on fait, les fautes qu'on commet, les incapacités qui sont les siennes, font que... que le gris domine, et qu'il faut inlassablement frotter pour retrouver la couleur originelle. Et ça, c'est vraiment ce que j'aurais essayé de faire, c'est pas de donner un sens à ma vie, mais c'est de retrouver la couleur originelle, de frotter. Dans l'Évangile, il y a une des phrases qui me plaît le plus, qui me plairait, même si je n'y croyais pas, vous voyez, qui est cette idée de la drachme perdue, vous savez, avec la dame qui est dans sa maison et qui trouve une pièce et qui frotte la drachme. Et les pères de l'église d'Orient disent qu'en réalité, quand frotter la drachme, ça veut dire simplement retrouver le visage de l'homme véritable qu'on a été, celui qui a été créé à l'image de Dieu, en frottant la drachme. En fait, j'aurais passé ma vie, je crois, à essayer de frotter la drachme, mais non pas à essayer de donner un sens à quoi que ce soit.
Cette enfance, quand vous la regardez maintenant, est-ce que c'est une enfance heureuse, c'est une enfance privilégiée, c'est une enfance bourgeoise, mais est-ce que c'est une enfance heureuse ? Est-ce que c'est le bon terme ?
Je n'en sais rien, parce qu'en réalité, vous savez comme moi qu'on ne la voit pas de la même manière son enfance, aux différents moments de son existence. Je pense qu'elle était heureuse quand je l'ai vécue. Elle était plus que bourgeoise en réalité, elle avait des côtés assez grandioses presque. Je crois qu'elle était heureuse quand je l'ai vécue. Je crois qu'elle a cessé de l'être quand je l'ai regardée par la suite. Mais je crois qu'elle est toujours là, présente comme quelque chose où à quoi j'ai eu envie de rester fidèle, parce que elle combinait quand même à la fin des fins, elle combinait cette facilité matérielle, ça paraît facile de dire ça, mais cette facilité matérielle avec une idée que tout ça ne comptait pas pour nous, ne devait pas compter pour nous, qu'en fait ça n'était pas ça qui comptait, mais autre chose, le travail, la couleur, le mérite, le devenir celui qu'on est, enfin, vous voyez, tout ce genre de choses. Et au fond, assez curieusement, les paysages de mon enfance, les meubles, le parc, les arbres, ont fini par me donner pas de nostalgie, mais on finit par m'apparaître comme le creuset matériel de choses beaucoup plus immatérielles qui m'avaient été transmises dans mon enfance et presque malgré moi, et auxquelles j'ai fini par être attaché.
Est-ce que vous avez une réponse à cette question qu'on est nombreux à se poser ? Est-ce qu'on change au cours d'une vie ou est-ce qu'on reste le même finalement ? Parce que c'est l'éternel débat.
Oui, en fait, la réponse est oui.
La réponse est oui. Oui, on change.
Oui, on change, bien sûr. Oui. On ne change pas nécessairement. Je ne suis pas pessimiste comme Scott Fitzgerald, je crois, qui disait que tout ça commence comme un combat de boxe. On le commence debout, on le finit par terre. Bon, donc, sous ce rapport, on change, on voit dans l'espace, mais d'ailleurs vertical. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. C'est-à-dire que je pense qu'on change. Je pense qu'on change quoi qu'il arrive. Je pense qu'on change quoi qu'il arrive. Je pense qu'on n'est absolument pas le même en réalité. Et que d'une certaine manière, par une sorte de sortilège étrange, on ne se rend pas compte soi-même du point auquel on a changé. Ce qui nous amène très souvent à penser qu'on n'a pas changé, alors qu'on a changé. Maintenant, pour moi, la question, elle est pas vraiment là. Elle est plutôt changer ou ne pas changer suppose qu'il existe une sorte de permanence secrète de notre être, vous voyez, que nous pourrions, malgré tout, créer un noyau, puis qu'on pourrait modeler, qu'on pourrait faire évoluer au fil du temps. La difficulté, sous ce rapport, me paraît être de savoir en quoi précisément consiste ce noyau. C'est-à-dire, quel est cet être propre, profond, dont nous devons, au fil du temps, développer ce qu'il a de meilleur en éliminant ce qu'il a de moins bon. Quel est-il ? Et pour moi, le problème, c'est celui-là, c'est à proprement parler celui de la connaissance.
Merci François Sureau, à demain.
Retrouverez demain la suite de cette rencontre de Marie-Laure Delorme avec François Sureau. À voix nue. Réalisation Marie Placet. Prise de son Stéphane Beaufils. Attaché de production Daphné Abgral. Coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécoutez ce podcast sur franceculture.fr.